Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a dit fuck you des fois. Moi, j'ai jamais dit fuck you parce que j'ai dit fuck you, je prends 10 mètres.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir, Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Thibaut Leplat également. Salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et oui, c'est dans deux jours, mais on va en débattre dès ce soir. Daniel et Thibaut veulent en parler avec vous au 32-16. Daniel veut donner notamment son avis sur Guardiola avant le match. Et Thibaut veut poser cette question philosophique liée au coach de City. Est-ce qu'on peut encore inventer quelque chose dans le football, messieurs dames, en 2023? On va se poser la question tout à l'heure. Avant cela, l'actu mercato du jour avec des news concernant l'OM dans quelques instants, plus la suite de nos explications sur la Juve, la Super League, Allegri qui reste comme coach contre toute attente. Johan Crochet sera avec nous tout à l'heure et puis on dira également un mot des révélations du jour de SoFoot concernant les coulisses de l'arbitrage français. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live est là. Direct Studio également. Voilà, puis pas de Roland Garros ce soir avec Samuel Jaoli. Puisque c'est fini, donc on le retrouvera.
Oui, demi-finale femme, la première était de qualité, j'y étais évidemment.
Très bien, tu préparais l'after, hein, bien sûr.
C'est un beau match. Oui,
entre les jeux, quoi.
Entre les différents. Non, pas ouais. Entre les différents jeux.
Je préparais, c'était pas dans l'after.
D'abord, il y a eu avant le match. Après, entre les deux matchs, il y a un break. Et puis après, il y avait quand même largement du temps pour préparer.
Alors. J'aimerais qu'on démarre par le mercato, les gars, avec un petit jingle mercato de bon aloi qui va tomber.
C'est combien, j'imagine.
30 000. Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher.
Tu l'as fait à combien, là? J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs, là?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Bon, info de Florent Germain qui suit l'Homme au quotidien, bien sûr, qui nous dit aujourd'hui que les dirigeants de l'OM veulent prendre leur temps pour choisir le successeur d'Igor Tudor. Il va y avoir plusieurs entretiens qui vont être menés par Pablo Longoria. Lui-même, évidemment, il veut parler foot, il veut parler recrue, et il veut surtout que lui et Javier Ribalta, qui est son directeur du football, son bras droit, qu'ils aient tous les deux un feeling, quoi, en fait, avec le futur élu en termes de contenu foot.
Jusque-là, rien d'anormal, hein.
Tout à fait.
Et Balta, dame par les temps qui courent.
Il y a des clubs où les entraîneurs sont imposés par quelqu'un d'autre. T'es au courant, enfin par quelqu'un dans un autre pays, par exemple.
Genre milliers de kilomètres de là.
Donc là, ça correspond à une certaine logique. On peut s'en féliciter.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Alors, info importante quand même. Ce ne sera pas a priori Marcelinho. Alors, on va pas dire à 100%, ce ne sera pas Marcelinho, mais quasi. C'est vrai que Marcelinho est ami avec Longoria. Longoria estime que c'est un excellent entraîneur, mais il ne le voit pas là à l'OM. Donc, on peut l'oublier. On peut oublier également Andoni Iraola, le coach du Rayo Vallecano, un nom qui est sorti dans la presse espagnole. D'autant que Iraola, lui, devrait atterrir au Celta Vigo. Alors là, il y a deux noms qui arrivent aujourd'hui sur la table. Gallardo. Alors, Gallardo, il y a des contacts et des échanges entre l'entraîneur de l'Argentin, Gallardo, son agent et l'OM. Contact établi. Important, ça, comme information.
Ils ont le 06, quoi.
Ils ont le 06, qu'ils m'appellent. Voilà.
Ils sont encore sur le WhatsApp, ça va.
Et alors, le petit coup de Trafalgar du jour, c'est quand même que Longoria a beaucoup d'estime pour Christophe Galtier. Parce que Longoria a dit, moi je n'oublie pas ce qu'il a fait à Nice, je n'oublie pas ce qu'il a fait à Lille. Voilà, donc il y a une, comment dirais-je,
s'il n'a pas dû regarder les matchs, hein, parce qu'à Nice, parce que c'était quand même pas, c'est pas faute de l'avoir dit ici. Ça fait insulter tout l'été.
En aucun cas, Galtier ne correspond à la description faite par Longoria l'autre jour dans la fameuse conférence de presse que Thibaut Leplat a tellement adoré qu'il s'est repassé mille fois depuis. Il passe le replay du matin au soir à la maison tellement il a kiffé la conférence de presse de Longoria.
En fait, c'est Florent Germain qui a consacré le podcast After Marseille du jour à cette conférence de presse.
Oui, mais elle est des grandes qualités. J'encourage.
Voilà.
Esprits ouverts à regarder ça.
Et Thibault Leplat n'en a pas trop fait sur
cette saison pour avoir critiqué Tudor, pour aussi dresser les louanges, en tout cas de cette initiative.
Tu voulais dire que c'était une opération rachat pour toi?
Non, une opération de, tu sais, j'essaie toujours, en toute humilité, mais j'essaie toujours de penser contre moi-même, non? Donc, quand je vais trop loin sur un truc, quand je sens que j'ai été dur, je vais regarder quand même, voir si ça maintient.
Ben moi, il m'arrive d'essayer de penser contre moi-même, mais dans ce cas-là, j'ai encore raison.
Étonnant.
Il est content. Eh ben non, moi je me rends compte quand même que j'ai souvent tort. Mais là, j'avais pas tort, je me suis rendu compte que j'avais raison, mais c'est peut-être Longoria qui avait tort. Mais en l'occurrence, alors, il donnait des arguments.
Je veux pas tresser des louanges.
Enfin, toujours est-il que Galtier ne correspond pas au profil décrit, pour être sérieux sur le sujet.
Je veux pas tresser des louanges trop souvent à Florent Germain, mais enfin, faut reconnaître que sur le dossier du coach de l'OM, ces derniers temps, il s'est rarement trompé.
Ah oui, non, il est.
Mais pourquoi, qui en doutait?
Mais ça, ça empêche pas.
Qu'est-ce qu'il raconte l'autre, Gallardo, Galtier, machin.
Ça dément pas du tout ce que dit Flo. On dit simplement qu'il peut regarder. Du respect pour Galtier,
c'est voilà, il peut très bien. L'autre a très bien pu lui dire de façon très bienveillante et gentille, oui, Galtier, on aime bien. Ça ne veut pas dire que Galtier va venir. Gallardo, je pense que ce serait d'un autre niveau.
Oui.
Nous Gallardo, le tenons en haute estime, pardon, puisqu'il a fait l'objet d'un article magnifique dans la dernière revue de l'After.
Voilà.
Et Gallardo est un entraîneur du futur pour l'OM. Ce serait extraordinaire de l'avoir.
Ce serait le meilleur choix et c'est l'un des cadors que tout le monde se dispute.
Ah là, si t'arrives à décrocher, t'arrives à avoir ce coach-là pour l'OM, c'est bingo. Quoi.
Ouais. Moi, j'ai une proposition à faire à Longoria, qui est un homme malicieux, qui connaît bien l'histoire de l'OM. Il pourrait recevoir Gallardo et Galtier afin que les deux se croisent dans le couloir. On pourrait refaire une scène mythique.
En mode faites entrer l'accusé.
C'est vrai que d'avoir ces deux-là dans une même liste, c'est assez cocasse pour l'OM, c'est vrai. Voilà.
Rappelons qu'il y a quelques temps, il y a eu une baston entre ces deux-là dans un couloir du Vélodrome, enfin dans le couloir qui mène au terrain.
Enfin une baston, on appelle ça un guet-apens.
Ouais. Guet-apens sur Gallardo.
C'est un guet-apens quand tu prends un mec à deux contre un mur, c'est pas vraiment une baston.
Ou alors?
Et qu'il y a une claque qui part.
Et si la malice allait jusqu'à ce qu'on propose à Galtier d'être l'adjoint de Gallardo? Ouais, non, ça passera pas.
Moi, je pense que Galtier va se reposer.
Et Oleksiak, avec Oleksiak dans le staff.
Je pense que les deux ont vraiment besoin
de repos.
Ils ont vraiment besoin un peu de plage et un peu, genre, 6 mois de plage pour se remettre des émotions parisiennes. Vraiment.
Bon, voilà ces infos OM du jour. C'est quand même très intéressant parce que c'est un des gros feuilletons de l'été et c'est très appréciable de voir que l'OM et que Longoria jouent pas la transparence complète, mais enfin en tous les cas communiquent sur ce qu'ils font.
Les deux plus gros clubs français sont en attente d'un coach.
Et de
nouveaux joueurs puisque l'OM va également, j'imagine, puisque chaque année c'est un peu ça, recruter et renouveler un petit peu son effectif. Pour correspondre peut-être au choix du nouvel entraîneur.
Il parlait de quoi? 40% de renouvellement par an, ce qu'il disait dans la fameuse...
Fabuleuse interview que tu te repasses 10 fois par jour.
Je me repasse, j'apprends par cœur, j'essaie d'imiter l'accent, mais pour l'instant j'ai du mal. Mais il parlait de 40% d'effectifs.
Allez, Morgane, elle va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Salut Morgane.
Bonsoir tout le monde.
Supporter de l'OM, toi t'as une théorie là sur le fait que le nom de Galtier soit sorti?
Ouais, c'est un petit peu des bruits sur Marseille et une théorie aussi. C'est que, effectivement, de ce qu'on sait, il fait partie d'une shortlist. Après, combien il y a de noms exactement, je ne sais pas, mais il en fait bien partie. Mais je pense que la fuite est volontaire pour que tester un petit peu la réaction des supporters si c'était faisable ou pas. Parce que dans le fond, s'il n'avait pas entraîné Paris, c'était une très bonne idée, mais je pense que le timing est très mauvais, parce que la réaction des supporters, on la voit, elle se comprend aussi. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est son comportement quand il est venu en championnat, surtout. Il a failli en venir aux mains avec certains supporters en jambouin. Il a eu des gestes pas super envers le stade. Donc, en plus de ça, ça a un peu remué le couteau dans la plaie. Je pense que Longoria se tire une balle dans le pied et je pense que tu installes une ambiance. Parce que si ça a sifflé, tu dors pour le premier match. Je ne vous raconte pas ce qui va se prendre Galtier. Donc, je pense que c'est une fausse bonne idée. Elle aurait été bonne il y a un an, mais aujourd'hui, si le timing est trop mauvais, peut-être dans 3-4 ans, ça se sera tassé, ça sera oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire, tu mets une ambiance.
Oui, c'est vrai que j'avais oublié cette altercation qui était assez violente.
L'OM qui doit prendre un entraîneur, il y en a d'autres, s'il n'y avait que lui, je ne dis pas, mais il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités. Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain et qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis président de l'OM, c'est presque un aveu d'impuissance, un aveu d'échec d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG. J'aime pas l'idée.
Il
avait rien à faire au PSG, on le sait tous. Parce qu'il est marseillais et parce qu'il avait pas les épaules. Mais parce qu'il a pas les épaules au PSG, le gars, il a les épaules pour l'OM. Moi, si je suis supporter de l'OM, je le prends mal. Ça veut dire que moi, c'est admettre que je suis un club de seconde zone en allant chercher l'entraîneur qui s'est fait piétiner au PSG.
Après, pour Galtier, il y a un intérêt à aussi rester dans le circuit, que son nom circule. Et que, voilà, après, il a quand même d'autres priorités, se reposer, s'occuper de ses affaires judiciaires. Mettre au clair ces histoires, peut-être éventuellement laver son honneur s'il considère qu'il a été entaché, et ensuite revenir. Je pense que c'est, mon sentiment là-dessus, mais si je le connaissais, c'est ce que je lui dirais.
Bon, voilà en tout cas les infos du soir qu'on pouvait vous donner là-dessus. On suit le dossier de très près, évidemment, grâce à Florent. Le pauvre Galtier, il n'a pas été accepté à Paris.
Ce qui pourrait bloquer pour Gallardo, c'est pas un entraîneur qui
n'est pas envie.
Mais non, qu'il n'ait pas d'autres pistes.
C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas visiblement beaucoup d'autres pistes. Il a depuis longtemps envie d'entraîner en Europe. On l'attend en Europe depuis très longtemps. Il a fait ses preuves en Argentine. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle. Il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, en fait.
Morgan, merci beaucoup.
Gilbert, si je peux juste me permettre une dernière chose. Je pense honnêtement que pour n'importe quel entraîneur qui va venir, il va y avoir une pression de dingue. Parce que je me dis que catastrophe.
Bah, comme d'habitude, non, il n'y a pas tout le temps la pression à l'OM.
Ouais, mais là, ça va être accentué, Daniel, dans le sens où fin août peut déjà y avoir la crise si tu passes pas le tour préliminaire. Et il va avoir sa préparation de juillet. Il va avoir un mois en août pour se roder avec son effectif et le nouvel entraîneur, le nouveau staff, etc. Et je pense que dans tous les cas, pour n'importe quel entraîneur, ça va pas être un cadeau parce que, imaginons, tu passes pas les tours préliminaires, fin août, ça va déjà être très compliqué pour lui, je pense.
Quand t'as entraîné River Plate, bon, au niveau de la pression, je pense que tu sais la gérer. La difficulté, c'est peut-être la spécificité de la compétition européenne si tôt dans la saison pour lui, qui a jamais entraîné en Europe. Il peut y avoir un petit temps d'adaptation, surtout que les premiers matchs comme ça, les matchs de barrage, sont des matchs où tu rencontres des équipes qui sont surmotivées et toi t'es encore en fin de préparation, donc il faut quand même être un peu rodé pour arriver à gérer ces matchs-là émotionnellement. Tu pars tout de suite, il faudrait tout de suite être à 110% et toi t'es qu'à 70% à ce moment-là.
Dans un instant, le reste de la Cubercato, on va parler de Lebris. Et puis j'ai quelques déclarations des uns et des autres à vous faire, à vous partager concernant différents sujets, concernant Galtier, concernant le stade Vélodrome. Voilà, l'actu du jour, quoi.
Quoi, encore à dire sur lui, ça va, non?
Bah, parce que Zoumana Camara a fait une petite sortie quand même.
Ah oui, c'est vrai, oui, il a mis une sorte de tac par derrière, là.
On en parle dans quelques instants. Et ensuite, messieurs, dames, ce sera la Ligue des Champions au programme. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Ah putain, mais on n'en prend pas tout.
22h17, Daniel. Halte au gros mot. Même en off. Voilà. Les gars, on continue sur nos infos mercato, mais juste avant, deux petites déclats. Il y en a une de Messi qui nous a échappé hier dans la fameuse interview au Mundo Deportivo. On l'a interrogé sur l'ambiance de la Ligue 1, les stades en France. Et là, Messi, qui a quand même été assez dur sur le PSG, qu'est-ce qui sort? Il dit, impressionnant, le stade Vélodrome, quelle ambiance! Lui, tout ce qui... soit il a rien compris, soit c'était vraiment là...
Bah, il est parti, quoi. Il est plus là, quoi. Bon.
Il dit qu'il a adoré jouer au Vélodrome, qu'il n'avait jamais vu une ambiance comme ça.
Bah, c'est normal, c'est un meilleur match cette année.
Oui, c'est vrai, en plus.
C'est un de ses meilleurs matchs cette année, Vélodrome.
Je l'ai dit, il a raison sur l'ambiance de Vélodrome, qui est la meilleure de France.
Ouais, il s'est régalé là-bas, et il les a tordus.
Oh, il y a eu longtemps.
C'est un bon souvenir pour lui. C'est le seul match où je me souviens d'avoir vu Messi très performant.
Il y a une époque où le parc et le Vélodrome, c'était kiff-kiff au niveau de l'ambiance.
Il y a eu des années 90. Il y a une époque où il y a longtemps.
Ouais. Voilà, c'était il y a longtemps.
Et puis autre déclat, donc c'était tout à l'heure chez nos confrères de France Bleu dans l'émission PSG. Zoumana Camara.
Dans l'émission de Pia.
De Pia, exactement. On salue.
À chaque fois que je peux la saluer, je la salue.
Zoumana Camara a été assez dur avec Galtier parce qu'il a dit bah voilà, au début de la saison, il m'a dit ouais, viens, mon bureau est ouvert et tout. Puis en fait, au final, pendant toute l'année, zéro contact.
Ouais, il a surtout marqué une différence avec ses prédécesseurs qui ouvraient la porte et discutaient avec lui, alors que Galtier, il ne l'a même pas calculé et il n'a pas du tout ouvert la porte du vestiaire.
Oui, bah, il y a eu la même.
Quand on sait que Zoumana Camara est un peu un historique du PSG, il était là déjà dans les années 2000, il a connu les années noires. Sur le terrain, après sur le banc, il s'est occupé des jeunes. Enfin, c'est quand même une figure importante du club. Que Galtier lui ferme la porte et ne lui parle jamais, je trouve que ça en dit long aussi sur la personnalité de Christophe Galtier.
Voilà, et puis Camara lui semblait lui reprocher aussi la gestion des jeunes que lui-même avait aussi dans son groupe pour d'autres compétitions. Voilà, là il m'a dit par exemple, il va jouer une demi-heure, finalement le mec jouait tout le match. Enfin bon, il était pas content sur certaines. Sur la gestion de certaines.
On a bien compris qu'il est pas mécontent de le voir se partir.
Bon, voilà, le costume était trop grand pour lui.
On en arrive maintenant au dossier Thibaut Leplat.
Il pas la doudoune, il portait bien la doudoune d'ailleurs. Il a pris la doudoune et il est parti avec.
Ouais, il est parti avec la doudoune. Ouais.
On en arrive donc au dossier Thibaut Leplat. Thibaut Leplat, niçois de cœur et d'adoption, va donc accueillir son coach préféré. Puisqu'RMC Sport vous a révélé aujourd'hui que Régis Lebris et le gym sont tombés d'accord.
Voilà, il reste à négocier encore avec le club, avec FC Lorient.
Voilà, négociation maintenant à faire entre Nice et Lorient. Alors, il faut rappeler quand même, c'est important ça, que Lebris a re-signé, enfin, signé une prolongation il y a quelques mois.
Ouais.
Et moi, je suis assez étonné parce que je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, Lebris à Nice, ça fait un moment qu'on en parle, hein, Thibaut.
Faisons la vanne, Lebris de Nice, tout ça. Disons-le déjà. Voilà.
Non, mais là où je veux en arriver, pardon. Après la blague, on s'en fout. C'est que je suis très étonné.
En plus, elle est pas bonne, Thibaut. Je suis désolé.
Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on l'a fait déjà.
Oui, mais justement, déjà, ça fait. Déjà, elle est nulle, mais en plus.
Non, mais le truc étonnant aujourd'hui,
moi, j'ai même pas vu le film.
C'est les réactions quand même très violentes des supporters de Lorient. Qui cet hiver, quand ils se sont fait piller de leurs meilleurs joueurs, ont à peu près rien dit. On les a peu entendus. Et là, Lebris, il passe d'ores et déjà pour un traître, la trahison, il a re-signé il y a 4 mois, il se barre.
Mais ça, c'est un peu normal. Le lien, Ghisolfi avait, lancé Francaise. Francaise est très lié à Régis Lebris. Brice, ils sont. il connaît bien son agent également. Il y a quelque chose d'assez naturel à ce que Régis Lebris, si Ghisolfi estime que c'est un entraîneur qui
peut. Ils se connaissent bien.
Exactement, ils se connaissent bien, qui peut monter en gamme et passer d'un club comme Lorient à Nice avec un peu plus d'ambition. Il est normal qu'ils se tournent vers lui. L'accord n'est pas complètement trouvé. À Nice, on dit que c'est pas encore trouvé et que le club va également rencontrer encore d'autres entraîneurs, même si la piste numéro une, c'est celle menant au coach de Lorient. Mais il y a possibilité pour le club encore de rencontrer un ou deux coachs.
Blague à part. Je trouve que ce serait une excellente idée, de mon point de vue. Maintenant,
excellente idée. Attention, il est Thibaut nous en parle depuis très très longtemps. Cette année, on a vu de très belles choses et même sur la fin, quand on lui a enlevé ses meilleurs joueurs, on lui a quand même enlevé justement Nice, Mofi. Il a continué à toujours présenter une équipe assez ambitieuse. Maintenant, c'est jamais simple des entraîneurs. Qui avaient comme ça cette volonté d'être protagoniste, de produire un bon football, et qui ont changé de club pour aller dans des clubs où il y a plus de pression, où t'es plus regardé, et on se dit tiens maintenant toi, on va voir de quoi t'es capable. Il y en a qui se sont plantés. Il faut avoir un autre caractère aussi. Il va devoir changer même au niveau du caractère. Il va falloir qu'il s'affirme un peu quand même.
La problématique de Lebris dans cette affaire-là, c'était de savoir où il mettait les pieds. Et qu'il y avait, d'abord la prolongation qui a été signée à l'hiver, je crois. C'est aussi qu'il pensait avoir des garanties sur de stabilité, notamment de l'effectif, et que le différent avec la direction est d'abord un différent sportif. Ce qui s'est passé pendant l'hiver a laissé des traces très, très profondes. C'est-à-dire que ça a été très, même lui en a assez peu parlé, mais en privé, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Vraiment, savoir recommencer fin janvier, remettre une équipe, on t'enlève ton meilleur joueur et ton buteur, tu dois tout recommencer, et essayer d'avancer dans une compétition que t'es en train de jouer. Sportivement, pour lui, c'était très compliqué. Il a réussi à le faire. Et à ce moment-là, il y a une porte était possible. Il considérait qu'un projet sur le long terme était possible.
De toute façon.
Et les réunions de fin de saison se sont mal passées.
Non mais les supporters de Lorient peuvent absolument pas lui en vouloir. Pourquoi ? Parce que le destin de ceux qui à Lorient réussissent, que ce soit joueurs ou entraîneurs, c'est de partir. Le club est constitué comme ça. Je suis désolé pour les supporters de Lorient de le dire de cette façon, mais la constitution même de Lorient. Par Loïc Ferry, c'est de faire du deal, c'est immédiatement
là, c'est
du trading
un problème d'argent,
et de profiter immédiatement des opportunités. Donc, on va pas en vouloir à un coach qui a quand même le droit dans sa vie d'être ambitieux et d'aller dans un club où il va avoir un peu plus de moyens et plus l'occasion d'enrichir sa carrière, de dire, attendez, les gars, vous allez pas me retenir. Moi, si je suis ici, à tous les coups, ça va être la même. On va faire un bon début de saison. Mon meilleur joueur à Noël, il va partir parce que Loïc Ferry va le vendre.
Le fait a été vendu déjà, non ?
Voilà. Et tous ceux, et rappelle-toi, quand même, Gourcuff.
Oui, Gourcuff, pareil, les belles années avec de Lorient. Mina,
d'ailleurs, il m'avait dit quand on l'avait invité, il dit, de toute façon, à chaque fois qu'on faisait un truc bien, mes meilleurs joueurs, il attendait pas la fin de la saison. Ferry, dès Noël, il les vendait. Et quand il les vendait l'été, des fois, il les vendait le 31 août. Et notamment quand il faisait son business avec l'OM à l'époque. Donc bon, Ferry, on sait très bien à quoi lui sert le club. C'est à faire son petit business et son trading. Donc je suis désolé pour les supporters de Lorient. Ils ne peuvent absolument pas vouloir à Lebris d'avoir de l'ambition et d'aller.
Pour un entraîneur, c'est très compliqué. C'est une vraie la double peine. T'essayes de faire performer ton club. À partir du moment où il performe, à partir du moment où t'arrives à avoir une sature, avoir des joueurs qui se révèlent, dès cet instant-là, ils partent. Donc c'est une sorte de pénalité à la performance. Ce qui rend la chose très compliquée quand t'es ambitieux, parce que Régis Lebris est un homme très ambitieux en matière de football, ambitieux non seulement pour sa carrière, mais ambitieux dans ce qu'il veut produire comme jeu, comme culture de jeu. Quand t'as pas de garantie sportive et que lui, il a des propositions qui lui arrivent, forcément, la question se pose. Il s'est avéré que la porte est ouverte à Nice aussi, et que l'organigramme niçois s'est précisé. Le duo Boquet-Ghisolfi a pris les manettes du club. Donc forcément, vu qu'ils se connaissent bien, donc tout ça fait que c'est assez naturel finalement que la chose arrive. C'est pas du tout récent, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à lui, et ça fait longtemps qu'ils le connaissent. Et il est connu, je veux dire, à part le grand public qui n'était pas tellement connu, mais dans le milieu du football, il était déjà connu, Régis Lebris. Donc c'est pas vraiment une surprise qui arrive là. Simplement, effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un désaccord comme ça entre une direction et un coach en devenir. Et tu le dis très bien, le drame, la tragédie de Lorient, c'est que c'est un club qui est fait pour partir, mais c'est un peu le destin des villes portuaires.
Allons à Lorient. Oui, pas mal ça.
La ville de Cinq-Ports.
Adrien est supporter de Lorient. Salut Adrien.
Bonsoir messieurs.
Salut Adrien.
Adrien, bienvenue dans l'after. Toi, t'en veux à Ferry dans cette affaire?
Bah, complètement. Je suis d'accord avec ce que disaient Daniel et Thibault Leplat, c'est que Régis Lebris, ça fait un long moment qu'il est arrivé au club. Il a mis en place ses idées jusqu'à arriver à l'équipe première. Et Loïc Ferry, bah, il continue en fait de répéter les erreurs qu'il a fait. Gourcuff est parti par sa faute. Il a pris Mickaël Landreau après pour espérer retrouver.
Mais tu sais, je suis désolé de te couper, mais en fait, c'est pas des erreurs, parce que quand tu commets une erreur, c'est souvent que tu fais pas exprès ou que tu sais pas trop ce que t'as fait. Là, pour lui, c'est pas du tout une erreur. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est totalement assumé. C'est une façon de gérer le club.
Le truc, c'est qu'il l'avait prolongé.
J'appelle
ensuite,
pas ça une erreur, moi, en fait.
Il le prolonge et ensuite la politique sportive, il y a un désaccord sur la politique sportive. Il l'a pas prolongé. Je veux dire, c'est là que se noue un peu le problème avec les supporters l'orienté, je crois.
Ben, il a besoin des supporters. C'est-à-dire que son modèle repose sur l'engouement local. Et moi, cette année, je suis allé trois fois au stade à Lorient. En fait, j'habite à Brest. Je suis pas supporter à Brestois, je suis supporter à Lorient. Et on a retrouvé, en fait, au Moustoir, les grandes soirées, les grands matchs de Christian Gourcuff, avec de l'ambiance dans le stade, une équipe qui arrive à porter le public. Et Ferry, il a besoin de ça. Donc, on le voyait, grand sourire. Là, il allait voir les supporters. Mais très vite, si le Brice part, là, il va être encore il va se retrouver, en fait, avec les supporters ados. Et là, le pire, c'est qu'il y a un investisseur américain qui est arrivé. Ça passe déjà très mal auprès des supporters. Donc, comme disait Daniel, c'est un club, je pense, qui est amené à disparaître, malheureusement, parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui pense plus à l'argent qu'au territoire, qu'aux supporters et qu'aux entreprises qui l'ont porté jusqu'ici.
Bon, oui, en gros, Ferry, qui était un financier, il veut faire du blé, quoi, pour résumer la situation.
Pareil, c'est vraiment un héros, on va pas découvrir ça ce soir.
On le redit.
Bon, bah voilà.
Non, mais après, il y a eu la dette Covid, il y a eu l'arrêt de la Ligue 1 qui a coûté très cher au club, mais qui a été remboursé grâce à ces deux ventes-là. Et effectivement, mais je répète, c'est d'abord un désaccord sportif, c'est une fin de saison qui se passe mal, voilà, et des opportunités qui se présentent.
Merci Adrien.
Si je peux juste ajouter,
bien sûr.
Daniel qui tient Vincent Labrune dans son cœur, le monsieur Ferry et Labrune sont très très amis.
Ah bon? Mais comment c'est possible?
Oui, on sait Adrien.
Évidemment Adrien.
Voyons, on connaît évidemment cette connexion.
Bah, tu sais, c'est pas la seule connexion de l'Orléanais. La plupart des présidents de Ligue 1 lui mangent dans la main. Après, parmi ces présidents, il y a ceux avec qui il mange, il y a les laquais qui sont au bout de la table, là, comme Caillot. Ferry, il mange en face de lui parce que c'est le business international, voilà. Et au-dessus, en revanche, Vincent Labrune mange dans la main de Nasser Al-Khelaïfi. Voilà.
Daniel, il t'a fait la géopolitique.
Oui, c'est géopolitique des relations
du bureau de la Ligue.
De nos dirigeants. Tout en haut, t'as Nasser Al-Khelaifi, après t'as Vincent Labrune et ses amis et les laquais.
Dans un instant, d'autres infos mercato concernant nos clubs français, notamment le PSG dans quelques secondes. Et puis d'ici 23h, on va également revenir sur le dossier de SoFoot qui est paru aujourd'hui qui nous raconte les dessous de la gestion de l'arbitrage français. C'est à la fois pathétique et révélateur du fonctionnement à la Fédération française de foot.
Oui. La commission fédérale a élu le meilleur arbitre de la saison. C'est qui ?
Monsieur Le Texier, j'ai vu.
C'est totalement dingue.
Oui, non, effectivement.
Le meilleur, on sait tout ce qu'il sait, c'est Benoît Millot.
Exactement. Hein. Bon, on ne comprend pas.
Donc c'est un Le Texier, deux Turpin. Mm-hmm. Donc Turpin, quoi qu'il fasse, il est sans arrêt dans les meilleurs. Lui. Mm. Alors qu'il a régressé Turpin. Et trois Millot. Alors que pour nous, c'est Millot en un. Et alors je crois qu'il y a Frappard en quatre.
Il est sur le podium des trois.
Ah, Frappard, là, pas trop quand même.
On va reparler d'arbitrage tout à l'heure. L'after revient tout de suite avec vous au 32-16 et après 23h, tout sur la finale de la Ligue des Champions, Guardiola, la question de Thibaut. Est-ce qu'on peut encore inventer des trucs dans le foot en 2023? Vous avez une idée? Appelez-nous. 32-16, ce sera tout à l'heure.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h33, l'after est là, messieurs là. Mais si vous écoutez l'after avec Thibaut Leplat et Daniel Riolo, eh bien vous pouvez vous féliciter parce que vous faites partie d'une communauté extraordinaire de podcasteurs, notamment si vous nous podcastez, puisque l'after est à nouveau premier podcast de France. Youpi, nous sommes les premiers. Voilà.
Quelle belle nouvelle. Il y a un petit moment qu'on avait perdu cette
première
place.
On était deuxième ces derniers temps.
On était deux, ouais.
Derrière nos amis des grosses têtes.
Absolument.
Qu'on salue d'ailleurs.
Quand même une émission historique et mythique.
Et qui passe à la télé.
Derrière, il n'y avait pas de honte à être derrière.
Ouais. Voilà. Et là, on est devant.
Mais c'est mieux quand on est devant.
Voilà. Donc, vous écoutez l'After, premier podcast de France. Et on vous remercie tous, évidemment. J'en reviens à mon mercato parisien. Pourquoi ? Parce que Leipzig a décidé de renvoyer Abdou Diallo à Paris. Leipzig n'a pas levé l'option d'achat du prêt d'Abdou Diallo, qui va donc retourner au PSG cet été. Il lui reste un an de contrat au défenseur sénégalais, qui n'est pas le gars qui avait le plus démérité à Paris, par ailleurs.
C'est pas le plus mauvais des défenseurs que le PSG a eu sur les dernières années, à qui on a tardé à donner un peu de confiance, mais quand on lui en a donné, honnêtement, je ne me pas souvenir de l'avoir vu passer au travers de ses matchs. Même dans les meilleures années du PSG, à savoir 2020-2021, il était plutôt pas mal. Donc moi, je très honnêtement, quand on voit la défense cette année, quand on a vu les prestations de Marquinhos,
ça aurait fait du bien.
Hein. Tout le temps été blessé, Ramos n'est plus là et de toute façon il était cuit. Honnêtement, le voir revenir, je ne crois que ce soit une mauvaise nouvelle, vraiment.
Exactement, je suis d'accord. Et puis Neymar, vraisemblablement, c'est le journal Sport en Catalogne, très proche du Barça, qui le dit. Neymar s'est carrément offert au Barça.
Ah, ouais.
Il dit, je veux revenir, je suis prêt à baisser mon salaire et tout. Sauf que Xavi, dans la journée, a dit, Neymar, c'est mon ami, mais non.
Ah, une mauvaise nouvelle pour le PSG, ça.
Voilà.
Mais en fait, je crois que Neymar, aujourd'hui, le seul club où le PSG pourra le refourguer, c'est un club dirigé par un Américain. Mmh. Il faut que ce soit un propriétaire qui connaisse pas trop le foot, qui est du blé à craquer parce que le marketing va l'intéresser, parce que la mise en avant du produit, vente
Chelsea,
de maillots, ce genre de choses. Oui, on peut.
C'est à peu près le seul qui.
Voilà, on tourne un peu dans tous les sens, mais en gros, il faudrait que ce soit Chelsea.
Voilà.
Dans le club où ils peuvent, je sais pas, combien ils ont de joueurs maintenant, 150, 200. Donc ils peuvent mettre Neymar à l'intérieur.
Ça fait une bonne fête, quoi. Il peut faire une bonne fête.
Rappelons qu'à Chelsea,
en plus,
Londres,
au niveau des soirées, au niveau poker, c'est pas mal fréquenté, Londres. Il peut trouver des bonnes parties de cash game à haute limite, c'est ce qu'il aime. Donc franchement, Londres, ça lui correspond pas mal.
Dans l'actu du jour, là, je sors du mercato hein, pour le reste. Un petit mot d'équipe de France. Vous savez qu'il y a des matchs là, dans les jours
qui
viennent.
Sur le PSG, c'est tout ce que tu as à dire, parce que moi, j'aimerais quand même...
Ah, t'as un truc en plus.
Si on pouvait s'arrêter deux secondes, parce qu'en ce moment, il faut le dire quand même, toutes les rédactions sont, et nous, je nous mets dedans, un peu en ébullition, effectivement, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, autour évidemment du nom du coach et des recrues. Sur les recrues, c'est allé assez vite parce que là maintenant, on est a priori, il y a 8 nouveaux joueurs qui devraient arriver et on est à peu près à la moitié, puisque donc, aidez-moi, mais Asensio et Skriniar et Ugarte, c'est fait. On est plutôt pas mal avancé, enfin il y a discussion avec Marcus Thuram, Gundogan, en fin de contrat, je pense que le PSG va vite se mettre dessus. Après, il manquera un ou deux gros coups. Bernardo Silva, on sait très bien que Campos a les liens pour discuter directement avec lui.
Donc, Kefren Thuram aussi. Qui
peut... On voit à peu près la tournure que peut prendre le recrutement, et on sait que l'idée de Luis Campos, c'est vraiment d'insister sur l'équipe et le collectif. Pourquoi je disais que les rédactions sont un peu en ébullition et que c'est un peu compliqué, comme ça l'a été l'année dernière d'ailleurs autour du coach. On l'a beaucoup expliqué, mais il faut vraiment le redire. C'est particulier, je me souviens très bien Jean-Baptiste Guégan qui était là hier et qui expliquait d'un point de vue politique les différences qu'il peut y avoir entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et la façon de fonctionner. C'est que aujourd'hui, on a donc un homme qui est censé gérer tout ça, c'est Luis Campos. Aujourd'hui, Campos, il a tout préparé. Pour schématiser, on va dire, il a son petit cahier. Il a vu ce qui allait pas. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît le foot, évidemment, et même très bien. On peut pas lui enlever ça, c'est impossible. Je crois qu'il est pas plus bête qu'un autre. Il a vu que les défaillances étaient collectives. Il a vu que Messi, Neymar, ça marchait pas. Il sait très bien que certains doivent se remettre au travail et qu'il faut un petit peu reconstruire. Et que donc, il faut un coach qui aura les mains libres pour faire les bons choix, ce que n'a pas su faire Galtier, même si c'était son choix à lui. Et déjà, de ça, il est redevable déjà de cette erreur. Bon, il veut avancer. Il a préparé son petit cahier, il est allé à Doha, il a présenté toute sa petite liste et d'entraîneurs et de joueurs. Aujourd'hui, clairement, si le coach qui arrive n'est pas dans son dernier trio de tête dont j'ai parlé l'autre soir, à savoir Mota, Nagelsmann plus 1, Nagelsmann sans Henry, Campos n'a plus rien à faire au club. Lui dit évidemment que je serai là, mais le fonctionnement qatari jette toujours un trouble. Parce que beaucoup de gens dans les rédactions, comme l'année dernière avec Zidane notamment, reçoivent des informations mais qui émanent du centre du pouvoir qatari.
C'est les sociétés de cours, qui disait bien Jean-Baptiste tout à l'heure.
Les gens sont proches vraiment du pouvoir, ils ont des informations.
Les sociétés de cours sont les sociétés de rumeurs, de sociétés de comme ça, d'écrans de fumée. C'est toujours très difficile de savoir où se trouve le centre du pouvoir.
Et ce sont des gens qui veulent tellement être proches du pouvoir, qui veulent avoir les informations, les donner et dire j'ai participé à la décision. Et il faut qu'on fasse nous très attention parce qu'on peut être piégé, on parle, ce sont des gens souvent très importants et très proches du pouvoir, et ça donne une sorte de confusion généralisée. Et même pour Luis Campos, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Même lui dit effectivement, je sais que dans mon dos, ça parle, et qu'on veut imposer des entraîneurs qui ne sont pas dans ma liste. Et si jamais c'est un entraîneur qui n'est pas dans les trois que j'ai cités, honnêtement, ça veut dire que Campos ne vaut rien dans ce club. Et auquel cas, il doit partir.
En tout cas, qu'il n'est pas considéré comme étant la tête pensante.
Non, mais
c'est pour gérer les affaires courantes, quoi.
Si c'est pas un gars de ceux que j'ai dit, ça veut dire qu'il ne vaut rien, il peut partir.
D'accord, mais
il peut partir.
Ce que je veux dire, c'est que dans la conception que peuvent se faire les Qataris, qu'on peut essayer d'imaginer, c'est de dire que Luis Campos, bon, et c'est celui qui va gérer les affaires courantes du sportif et que les nominations prestigieuses appartiennent à la source du pouvoir.
Ça voudra dire qu'il n'a rien à faire là. Il faudra qu'il s'en aille parce que ça veut dire qu'on ne lui
ça voudrait dire toujours la même chose, c'est-à-dire que ça fonctionne à l'envers et que c'est les gens les plus éloignés du terrain qui décident de ce qui se passe sur le terrain.
Et on lui aura pas laissé décider de qui doit diriger l'équipe, auquel cas il a plus rien à faire.
Après, il a quand même une pierre dans la chaussure, le pauvre, c'est quand même c'est Galtier.
Oui, bien sûr.
C'est que Galtier, ça l'a pas aidé politiquement. Moi, j'étais très surpris quand il a nommé Galtier.
Je n'y ai jamais cru. J'ai jamais cru qu'il ferait admettre cette idée au Qatar.
Il a pris un énorme risque en fait en proposant tout de suite Galtier et que le Qatar l'ait suivi. Il a été quand même pieds et poings liés au destin de Christophe Galtier. D'ailleurs, il voulait le prolonger, lui.
Et c'est pour ça qu'il va devoir se racheter.
Voilà.
Réussir son mercato, réussir les départs et trouver le bon coach.
C'est ça, les sociétés de cours. Tu vas essayer de retrouver les faveurs du roi.
Absolument.
Retrouver les faveurs
et
du roi.
On lui laisse une deuxième chance.
Tu as déplu, il faut à nouveau plaire.
Exactement, Thibaut. Et je veux bien, sans problème, lui laisser une deuxième chance parce que ce qu'il avait fait avant mérite qu'on lui laisse une deuxième chance parce qu'il avait construit des belles équipes par ailleurs. Il n'a pas tout le temps tout fait de façon formidable, Mais honnêtement, quel directeur sportif aujourd'hui dans le foot ne se trompe jamais ou prend. Alors après, il y a toujours ce truc un peu de.
Ah, c'est pas de la magie, hein. C'est normal.
Non, mais après, il y a toujours ce truc de. Il travaille avec les amis. On l'a souvent dit nous aussi. On sait très bien sa relation avec Mendes. Après, il faut savoir que ce milieu des agents, tu trouveras pas un agent ou un directeur sportif qui dit du bien d'un autre. Les mecs ne font que se tailler.
Ils sont en concurrence,
et parfois il y a comme une forme de logique à dire bah écoute oui je vais bosser avec un agent que je connais parce que on va dealer ensemble.
Faut pas oublier que les
comme j'avais dit pour Longoria il y a quelques mois, tant que ça marche
les clubs de foot,
s'il a envie de bosser avec ses amis italiens et ses agents italiens, tant que ça marche
les PME, les clubs de foot,
on lui reprochera rien.
Donc ça fonctionne comme des PME, il y a des amitiés, c'est pas l'amitié, c'est pas en soi, bon je crois pas que ce soit le problème. L'amitié normale, que dans ton travail t'as plus tendance à travailler avec des gens que tu connais parce que tu leur fais confiance, etc., à la limite.
Mais sauf que quand ça marche pas, on va te le reprocher.
Voilà. Dans un instant, le reste de l'actu du jour, avant de parler de la Ligue des Champions, affaire d'arbitrage également dans le foot, une nouvelle révélée par SoFoot. Voilà le programme de la
fleur. Il est vraiment fort le Texier
à venir.
Il mérite d'être numéro 1 le Texier.
Bah écoute,
j'ai pas souvenir d'avoir vu.
Il doit y avoir des critères.
J'ai pas d'avis.
C'est que c'est les notes en fait. Hein,
oui, j'ai compris, mais c'est difficile de noter.
Bon, allez, pub. On revient tout de suite pour le reste de l'actu du jour.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h47, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là également. Info du jour avant de parler Ligue des Champions tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a quelques trucs intéressants qu'il faut qu'on partage, notamment liés aux récents incidents dans les stades. Juste avant, équipe de France, je vous signale que Ferland Mendy a été est forfait. Il a été rappelé par Vieretou. On se dit, tiens, étonnant, pas le même poste. Mais en fait, c'est un petit jeu de domino. En fait, ça signifie que dans l'idée de Deschamps, c'est Camavinga qui redevient une sorte de doublure de Théo Hernandez comme latéral gauche. Vous voyez le truc? Il y a deux matchs de l'équipe de France.
On voit très très bien.
Vendredi 19 contre Gibraltar.
Alors moi, j'attends le match contre Gibraltar avec impatience parce que ça promet quand même un très très gros match. J'attends vraiment ce match.
Tu sais pas, ces matchs-là, c'est toujours...
France-Gibraltar, je pense que ça va être l'événement de cette fin d'année, quand même.
C'est vendredi de la semaine prochaine. Et après, t'as France-Grèce.
Un peu moins bien, un peu en dessous.
Ouais, la Grèce, c'est
pas possible. France-Gibraltar, pour lui, c'est l'occasion de d'offrir des buts à des attaquants. Donc les attaquants se battent pour jouer ce genre de match.
Ah, d'accord.
Et donc, politiquement, il va donner des minutes à celui qui l'a...
Il va se jouer où, ce France-Gibraltar?
Stade de France.
Ah oui, en plus. D'accord. Ah, écoute, très bien. On est ravis.
Toujours pas de Rongier?
Non,
il y avait Veretout.
Bah, c'est vrai qu'entre les deux, c'est vrai que
Veretout. Oui, mais Veretout aussi.
C'est vrai que Rongier, c'est pas comme s'il pouvait jouer latéral.
Rongier, il est.
Veretout joue latéral.
Rongier, il n'a pas un agent ami. L'autre.
Bon, alors, on a beaucoup parlé des incidents du week-end dernier, que ce soit à Ajaccio ou à Bordeaux. Rebondissement aujourd'hui dans les deux affaires. Parce que l'ACA sort de son silence et publie une vidéo. En fait, vous savez, ont été rendues publiques les images de la vidéosurveillance. Et en fait, ça n'a pas du tout plu à l'ACA Ajaccio et à son président, Alain Orsoni, qui communique et qui dit « Je n'avais aucune raison de douter de la véracité des déclarations des parents du petit Canizo. »
Personne ne doutait quand on l'a écouté. Comment tu veux douter d'un truc pareil ?«
Car il m'apparaissait impossible qu'ils aient pu vouloir instrumentaliser leur petit garçon malade à des fins de bad buzz. Mais les éléments objectifs de l'enquête, et notamment le contenu de l'enregistrement de la vidéosurveillance, révèlent que la vérité est tout autre et que la gravité des agissements de certains supporters ajacciens au demeurant répréhensibles a été nettement exagéré. Voilà ce que dit le président d'Ajaccio.
J'ai vu les vidéos, j'ai suivi l'affaire aujourd'hui, c'est effectivement troublant.
Ouais, moi, je trouve ça consternant, la réaction d'Alain Orsoni. Je trouve ça consternant, cette affaire, depuis le début. Peut-être on peut chipoter, argoter sur l'aspect légal. Est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce qu'ils l'ont vraiment frappé, pas frappé? On parle d'une famille, d'un gamin de 8 ans. On parle de gens qui arrivent dans des loges, on sait pas comment, parce que la vidéo, elle montre rien. On voit des gens qui marchent dans un escalier, qui rentrent dans une pièce. Rien d'autre dans la vidéo. Il peut se passer plein de choses. Comment ça se fait que ces gens soient là?
Non, mais je suis d'accord
avec.
C'est quoi cette idée débile? Il faut pas y aller, il faut pas faire peur.
Mais c'est ça le cœur du problème, Daniel. C'est ça le cœur du problème.
Il y a une mère qui dit, elle est là et elle est pas là.
Comment ça se fait qu'on trouve absolument.
La mère, elle est pas là.
C'est normal qu'un.
Non, mais. Tu te retrouves face à quelqu'un qui fasse cam avec son enfant à côté, peut-être, maintenant il faut vraiment se méfier de chaque mot, a peut-être menti. C'est gênant.
je trouve que cette affaire là, le problème ça n'a pas été de savoir s'ils l'ont tapé, pas tapé le gamin ou pas. Le problème c'est qu'on a cette logique de
taper,
hégémonie.
Pas taper l'enfant, déjà tu passes de la barbarie à autre chose déjà quand même.
Ouais, enfin
tu peux, si, quand
la,
même,
la logique
quand même.
Non, c'est, pour moi il est, la question elle est, pour moi c'est aussi grave l'un que l'autre. En fait, pour moi, c'est aussi grave. C'est-à-dire que cette logique débile de la stupidité du supporter ultra fanatisé qui va rentrer dans une tribune présidentielle, rentrer dans une loge pour faire enlever de force, je répète, un maillot qui déplaît à un autre et qui rentre et qui ensuite est fier de son acte et est défendu par son président. Je trouve ça, c'est pour moi le symptôme même de la débilité humaine. Je suis désolé de le dire comme ça.
Problème.
Oui, mais c'est ça le cœur du problème.
Non, mais parce que le problème,
et qu'ensuite on vienne à côté savoir est-ce que finalement ils sont rentrés, combien ils étaient dans
le fond.
Mais
Thibaut,
c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est presque obligé de douter de ce qui s'est passé. Puisque la personne qui t'a parlé a peut-être menti.
Rien que sur les images, tu vois des types, tu dis, sortent de nulle part.
Tu vois juste des mecs qui montent un escalier et qui rentrent dans une loge,
qui repartent triomphants avec un maillot de l'OM dans les mains. Qu'est-ce qu'ils font là?
C'est une catastrophe.
Oui. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est indéfendable.
C'est comme dans tout fait divers, il y a les témoignages. Et on se rend compte qu'il y a les témoignages qui, en gros, sont faux.
Moi, je me place. C'est quand même dans cette affaire-là.
Non, mais ça n'enlève rien.
Dans cette affaire-là, je me place sur un plan moral. J'assume la position morale. Sur un plan moral, c'est inacceptable. Sur un plan légal, on peut argoter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Il s'est pas rien passé.
Après tout. Voilà.
Donc ça suffit de.
Personne n'a dit qu'il s'est rien passé.
Personne n'a dit qu'il s'est rien passé.
On précise quand même que
on cherche absolument à laver un hypothétique honneur de gens qui se sont déshonorés tout seuls. On cherche absolument à laver une sorte d'idée fausse qu'on a du supporterisme. C'est quelque chose qui est inacceptable. Qui a eu lieu. Maintenant, on baisse la tête, on a su, merci, au revoir. C'est tout, c'est inacceptable moralement.
Mais je te signale que les gens d'Ajaccio se sont exprimés sur cette histoire et sur les autres incidents. Il n'y a toujours aucune réaction du fameux président qui a fait une conférence de presse que tu as regardé 10 fois.
Mais il en a parlé de ça. Il en a parlé, il a dit que c'était honteux, qu'il fallait être un malade mental pour faire ça.
Non, moi je te parle de ce qu'ont fait les supporters de l'OM, il a jamais rien dit là-dessus.
Oui, sur la station.
Ah oui, il s'est jamais exprimé là-dessus.
On en a parlé l'autre soir, j'étais d'accord avec toi, effectivement, il en a pas parlé, on lui a pas posé la question.
Et les responsables politiques de Marseille non plus.
Exactement.
Pas un mot.
Mais pour moi, j'ai la même indignation à l'égard des supporters marseillais qui s'attaquent à un journaliste.
Et
la même indignation face au silence des gens qui protègent.
Que nous ayons la même indignation, je veux bien. Mais j'aimerais.
Pour moi, c'est la même chose.
Dans cette histoire, il y a une responsabilité politique et une responsabilité des dirigeants également. Et j'aimerais qu'ils s'expriment. Et à Marseille, il n'y a eu rien. Pas un mot.
Totalement
et
d'accord
ça, c'est absolument lamentable. Lamentable.
Autre affaire, Bordeaux. Aujourd'hui, Clément Michelin, joueur de Bordeaux, a publié un message sur Instagram. Alors, je fais référence à l'affaire Bordeaux-Rodez, là, pour vous remettre à niveau. Et donc, Lucas Boades, agressé par un supporter, rappelez-vous, le week-end dernier. Et Clément Michelin dit, je cite Michelin, un supporter a donné l'opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Donc, il qualifie Lucas Boades de tricheur. Je recite Michelin, un protocole commission qui nécessite un jour d'arrêt pour l'interrogation. Je suis très bien placé pour savoir que c'est un scandale. On nous donne l'opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret, dit Clément Michelin.
Attends, de toute façon, mais en fait, ils ne veulent pas comprendre.
Parce que lui-même a dû observer un protocole commotion de quelques semaines, d'accord. Clément Michelin.
Michelin est
parfaitement gonflé parce qu'il devrait savoir que quoi qu'il en soit.
Michelin est gonflé, pas mal.
Oui.
T'as pas fait exprès. Dis-moi que t'as pas fait exprès.
Évidemment que si.
Arrête, non.
Mais évidemment que si.
Des jeux de mots involontaires.
Mais t'es pas obligé de le souligner. Tu sais, ça doit passer tout seul. Bref. Il devrait savoir que quoi qu'il en soit, Bordeaux aura un match perdu. Ou au minimum retrait de points. Et que donc ils sont cuits. Ne serait-ce que parce qu'un supporter est entré sur la pelouse et l'a bousculé, qu'il y ait commotion, pas commotion, chiqué, pas chiqué. De toute façon, ils ne gagneront jamais ce match. Donc Michelin, c'est bon, il peut arrêter maintenant. Ils peuvent chialer autant qu'ils veulent, les Bordelais, c'est cuit. Et moi, j'ai de la peine pour la majorité des supporters bordelais qui se sont fait enfler toute l'année par les promesses de Lopez et de ses alliés ultramarines. C'est eux qui ont plombé le club.
Il y en a beaucoup.
C'est pas nous, en condamnant ce qui s'est passé, qui sommes responsables, alors qu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux, comme si c'était nous qui étions rentrés sur la pelouse pour aller bousculer un joueur ou pour foutre la merde. Parce qu'en plus, le fameux supporter qui a bousculé, déjà quelques minutes avant, sur d'autres vidéos, on voit qu'il est encore sur la pelouse. Il se balade, il fait ce qu'il veut et il insulte à l'entraînement le gardien adverse. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Donc bon,
Au final, Michelin est sorti de la piste quand même. Petite sortie de piste de Michelin.
Voilà. Michelin, il aurait mieux fait de se taire parce que de toute façon, la commission de discipline, au minimum, elle donnera un point en moins pour l'année prochaine et match perdu. C'est certain, match perdu.
La seule attitude valable moralement dans cette affaire-là, c'est d'accepter ce qui s'est passé et de que le sport continue. Le sport, c'est aussi ça, c'est le fair play, c'est aussi ça, c'est reconnaître quand ton adversaire t'a gagné. Il s'est passé cet événement-là. Il y a beaucoup de supporters bordelais qui l'ont accepté. C'est évidemment pas tous la majorité qui râle. C'est passé, dont acte. Maintenant, on pense à la suite.
Et que Lopez pense à la suite et qu'il commence à aller chercher des sous pour la DNCG parce que ça va être très compliqué.
Dans un instant, les nouvelles affaires d'arbitrage à la Fédé et la finale de la Ligue des Champions. L'after est là jusqu'à minuit. On revient tout de suite avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.